Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Édition de ce jeudi 15 octobre. Comment allez-vous tout le monde? C'est Kamal. Oh, j'oublie votre nom de famille! Salifou. Merci Kamal, on se voit vraiment pas souvent. Maintenant, je ne suis que de passage quelques heures ici à Canal M. Et quand on se réveille le matin et qu'on sait qu'on vient vous jaser, auditeurs, auditrices, on est content. C'est parfait comme ça. On aime ça. Aujourd'hui, à Ça vaut le détour, on continue notre incursion dans le monde du sourd. Et aujourd'hui, on a décidé d'augmenter le coefficient de difficulté en parlant de surdicécité. Et vous allez voir, moi, ça m'a toujours impressionné pour des raisons évidentes. Déjà, quand on a un des deux, un sens manquant des deux, c'est pas évident. Lorsqu'on combine les deux, on se dit comment communiquer. Alors, on va regarder tout ça. On va également s'intéresser à un nouveau blog, Une vie à ma mesure, avec l'initiatrice du blog, ma co-animatrice d'Accès libre, qui aujourd'hui encore vient faire son tour. On va jaser avec Karine Villeneuve aujourd'hui brièvement et on passera l'heure ensemble, elle et moi. Karine qui est directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Et également, on va profiter de Jonathan Poulain, qui est un des sujets de son blog. Et on termine avec la visite mensuelle de notre kinésiologue, Jessica Laniel, qui nous parle d'entraînement pour les personnes atteintes d'accidents vasculo-cérébrales. Alors voilà le petit menu du jour. Alors, je vous disais qu'on allait parler de surdicécité, particulièrement du syndrome de Usher. Avec nous, Gilles Lefebvre, qui est éducateur spécialisé de l'Institut Raymond Devoir. Également, Karine Marchand, qui, elle, est une jeune étudiante. Elle est atteinte également, Karine, qui, vous me disiez, a 32 ans. Et là, je vais essayer de me tourner vers Karine, qui est oraliste. Et en même temps, je vais essayer de faire en sorte que le micro, quand même, capte bien tout ça. Karine, est-ce que vous me voyez bien?
Oui.
Excellent. Et je pense, Kamal, tout est beau. Peut-être donner quelques détails. Le syndrome de Usher est une maladie génétique qui associe toujours la surdicécité à la rétinite pigmentaire. C'est le problème visuel. Affecte donc 3 à 6 % de la population sourde, malentendante à la naissance. Également associé une dégénérescence importante du champ de vision. Et tiens, on va commencer avec Gilles. J'ai envie que vous me parliez un petit peu du lien entre les deux. Comment se fait-il que, sans être trop technique, ce syndrome-là décide à la fois de se rabattre dans les conduits auditifs et auprès de la rétinite?
Bon, OK. Alors, le syndrome de Usher, il s'agit d'une maladie héréditaire. C'est un problème génétique. Alors, les personnes ayant le syndrome d'Usher, il y a plusieurs types de syndrome d'Usher. Hein? Mm-hmm. Et on peut naître avec une déficience auditive profonde, comme on peut naître avec une déficience auditive moins sévère, OK? Et éventuellement, quand on approche de l'adolescence, la rétinite pigmentaire commence à se manifester, OK? Les personnes qui ont le type 1 vont naître avec une déficience auditive profonde et la plupart du temps, ces personnes-là vont communiquer en langue des signes. Okay?
D'accord.
Elles ont aussi un problème vestibulaire, alors elles ont des problèmes d'équilibre. Okay? Les personnes syndrome d'Usher de type 2, comme Karine, vont naître avec une déficience auditive qui va quand même permettre le développement de l'acquisition de la parole. Okay? Alors, ces personnes-là peuvent communiquer oralement. Elles n'ont pas de problème vestibulaire, mais éventuellement, vers l'adolescence aussi, commence à se manifester la rétinite pigmentaire.
Et le type 3, ça, c'est beaucoup plus rare. Là. On parle de certains cas en Europe.
Le type 3, en général, ces personnes-là naissent entendantes, voyantes, et petit à petit, elles perdent l'audition et elles vont aussi développer la rétinite pigmentaire.
Mm-hmm. Est-ce qu'à la naissance, lorsqu'on constate la difficulté d'audition de la personne, on peut détecter un syndrome de Usher ou on en est conscient que lorsque la rétinite est attaquée?
C'est exceptionnel qu'on va diagnostiquer un syndrome de Usher chez des enfants. Okay? La plupart du temps, c'est vers l'adolescence que les personnes vont commencer à sentir là, vivre les manifestations là, de la rétinite pigmentaire.
Est-ce que je comprends, okay? Donc, Gilles Lefebvre, que chaque personne sourde ou malentendante qui naissent, on dit aux parents, on ne le sait pas encore, mais il est possible que plus tard, elle ait une perte visuelle également? C'est comme on ne le sait pas?
Non. Si dans la famille, il y a déjà des personnes atteintes du syndrome de Usher, c'est possible que les parents demandent une investigation en ophtalmologie pour vérifier s'il n'y aurait pas la présence de rétinite pigmentaire. Okay? Mais comme je vous dis, la plupart du temps, le syndrome d'Usher va être diagnostiqué vers l'adolescence.
Vous, Karine, vous le savez maintenant que vous portez la maladie, évidemment, mais personne dans les générations antérieures ne donnait des signes de syndrome d'Usher. Donc, c'est plus tard qu'avec la perte visuelle, la rétinite pigmentaire, on a compris, c'est ça le problème?
Oui, exactement. Il n'y a personne dans ma famille qui est atteint de cette maladie-là. On est juste porteur. J'ai maintenant 32 ans. J'ai été diagnostiquée à 29 ans. Petit à petit, j'ai commencé à perdre mon champ visuel, mais sans vraiment m'en rendre compte. Je me trouvais juste un peu plus gaffeuse. Mm-hmm. J'accrochais les verres, je rentrais dans les murs, tout ça. Mais la vie continuait. Ma vision centrale est très bonne. Donc, j'ai conduit très longtemps. J'ai conduit jusqu'à l'âge de 29 ans. Jusqu'à temps, ça a été diagnostiqué. Voilà.
Comment vous décrivez-vous, Karine Marchand? Qui êtes-vous?
Moi, je me décris comme une personne tout à fait normale, une bonne vivante. Je fais encore plein de choses un petit peu folles à la fois. Je fais encore du rollerblade, de façon sécuritaire, tout ça. Je fais encore plusieurs sports, le ski alpin, tout ça. Mm-hmm. J'ai retourné aux études pour pouvoir faire un métier plus adapté.
En éducation spécialisée.
Oui, en éducation spécialisée. Je pense avoir trouvé ma voie là-dedans. Auparavant, juste pour vous dire, je travaillais dans une usine très longtemps. C'était plus possible, c'était devenu trop dangereux. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis retournée aux études.
Karine, Gilles a disons, à peu près 20 % d'audition et elle voit très bien au niveau de la vision centrale, mais on sait que graduellement, le nerf optique, c'est-à-dire le champ visuel, va se rétrécir. Le pourcentage de personnes atteintes du syndrome de Usher qui, disons, vivent un peu la réalité de Karine ou encore, est-ce qu'il y en a plus qui sont atteints plus durement ou moins? Comprenez-vous ma question? Elle se situe où, elle?
Mon Dieu! Comment dire ça? Dans le fond, ce que vous voulez savoir, c'est si on peut devenir... si on peut avoir une cécité totale avec le syndrome d'Usher.
Mais en fait, j'essaie de comprendre l'impact et la sévérité de la majorité atteinte du syndrome d'Usher.
OK. Bon. Quand on n'a pas la rétinite pigmentaire, on a une vision périphérique qui peut se mesurer à 180 degrés à l'horizontale puis à 135 à la verticale. Alors, pour les personnes qui voient, qui nous écoutent, là, si elles regardent devant elles, elles voient quand même le plafond, le plancher, elles voient ce qu'il y a à leur gauche, ce qu'il y a à leur droite, sans tourner la tête. Une personne chez qui la vision périphérique diminue, c'est que ça... ça mène éventuellement à une vision qu'on appelle tubulaire. OK? Mm-hmm. Alors, à partir de 60 degrés, là, on est considéré comme étant handicapé visuel au sens de la loi. Puis à partir de 20 degrés, on est considéré comme étant aveugle, même si on continue à voir, comme Karine.
Oui.
OK? Alors là, dans la population ayant le syndrome d'Usher, là, vous avez toutes ces variantes-là. Il y a des personnes qui... qui vont perdre totalement la vision périphérique, okay, qui vont conserver 1 degré, 2 degrés. Mm-hmm. Et il y en a d'autres qui vont se rendre, qui vont vieillir en conservant encore une vision qu'on peut dire fonctionnelle, qui permet les déplacements quand même, tout ça.
Karine, la question un peu insignifiante, mais que tout le monde se pose, oui. Est-ce que vous trouvez plus difficile de mal entendre ou de mal voir?
Mal voir.
Pourquoi?
Parce que mal entendre, je suis née comme ça. J'ai pas eu une régression, quoi que ce soit. Je suis née comme ça. J'ai appris à parler avec ça, à vivre avec ça. Tandis que ma vision, je l'ai perdue et je la perds graduellement. Ouais. C'est complètement autre chose.
Diriez-vous actuellement que vous voyez mieux ou vous entendez mieux avec les résidus de chacun?
Mon Dieu, c'est une bonne question. En quelque sorte, je pense que je vois mieux.
OK.
Parce que je porte plus attention aux choses qui sont alentour de moi. Uh-huh. Puis même en éducation spécialisée, un des gros apports, c'est observer les gens. Et je pense que certaines fois, je vois plus qu'une personne voyante.
Parce que vous faites attention.
Oui, on fait attention. Ouais. On est plus spécifique dans ce qu'on regarde. Il faut qu'on prenne notre temps. C'est juste donner un exemple, faire mon ménage à la maison, c'est pas comme que quand je voyais à pleine vue. Là. Il faut vraiment que je prenne mon temps. J'ai des techniques de nettoyage pour pas oublier les coins, une ligne sur mon comptoir. C'est prendre plus de temps.
Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans cette réalité de vivre avec le syndrome d'Usher?
Je vous dirais la perte de mon permis de conduire.
OK.
Parce que j'ai conduit jusqu'à l'âge de 29 ans. Le permis de conduire, c'est l'autonomie, finalement. Mm-hmm. Décider à la seconde près, bon, ben je décide d'embarquer dans mon camion, je vais faire un tour à l'Épiphanie voir mes parents. C'est plus la même réalité maintenant.
Ouais.
Il faut que je me prenne un peu plus d'avance. Ça travaille beaucoup la patience, perdre la vision. C'est le transport en commun, tout ça. Ça développe beaucoup la patience, oui.
Que faites-vous que vous ne devriez peut-être pas faire, mais que vous n'acceptez pas encore de ne pas faire? Exemple, souvent, les gens qui devraient utiliser les cannes blanches attendent longtemps, même trop longtemps, avant de la sortir de leur tiroir. Est-ce qu'il y a quelque chose que les conseillers comme Gilles vous disent, mais que vous repoussez?
Honnêtement, je ne crois pas.
Okay.
Mes intervenants, je crois qu'ils m'aiment bien, m'adorent okay. bien, parce que comme je suis une fille assez vivante, tout ce qu'on me propose, je l'essaie. Moi, j'utilise ma canne blanche et c'est même pas mes intervenants qui me l'ont proposé. Je l'ai demandé par moi-même. Parce que, honnêtement, j'étais rendue, je prenais le métro et j'étais en train de virer folle.
Ouais.
Parce que je rentrais partout, les gens me coupaient. Et non, là, je me suis dit, ça n'a vraiment plus aucun sens. Oh. Ça n'a pas été long avant que je la demande.
On s'intéresse au syndrome de Usher aujourd'hui avec Karine Marchand, qui est une jeune atteinte qui également étudie au Cégep du Vieux-Montréal en éducation spécialisée. Également avec nous, Gilles Lefebvre, qui est conseiller en réadaptation de l'Institut Raymond Devoir. Gilles, justement, la chose peut-être la plus difficile à vendre aux bénéficiaires, hein, ce vers quoi les gens résistent.
Je pense que c'est la canne blanche.
Ah oui, encore,
je
OK.
Je pense que c'est la canne blanche.
OK.
Oui.
Il y a un stigmate, hein?
Bon, Karine, ça m'a frappé, parce que la première fois qu'on a rencontré Karine, elle a tout de suite demandé une canne blanche. Alors, c'est exceptionnel. On a des personnes qu'on connaît, là, avec qui on travaille depuis longtemps et qui n'utilisent pas la canne blanche. Mm-hmm. Il y en a qui la canne blanche est dans le tiroir, mais il y en a d'autres qui sont nombreux, d'ailleurs, là, qui l'utilisent bien. Comment dire ça? Quand on est sourd aveugle ou qu'on a le syndrome d'Usher,
ouais.
C'est que ces deux déficiences qui sont combinées chez une même personne, hein, la déficience visuelle et la déficience auditive. Alors, ce qui fait que c'est une condition de vie qui est différente que des personnes qui ont une déficience unique. Une personne non-voyante peut utiliser son audition mm-hmm. pour aller chercher de l'information, plus d'informations. Une personne sourde peut conduire une auto. Okay? Alors, mm-hmm. elle va utiliser beaucoup sa vision pour compenser le manque d'informations auditives. Alors, une personne qui a les deux déficiences en même temps, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à l'information visuelle et sonore. Alors, ça entraîne des difficultés au niveau de la communication, au niveau des déplacements, au niveau de l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne, la capacité à demeurer intégrée dans son milieu. Mm-hmm. OK? Alors, nous, notre travail, c'est d'aider les personnes à s'adapter à cette condition-là, dans le fond.
Pourquoi on parle de déséquilibre? Est-ce que c'est lié au syndrome de Usher ou à la surdité?
De déséquilibre?
Oui.
OK, ça, c'est les personnes syndrome d'Usher de type 1. Comment dire ça? Ils naissent avec un trouble vestibulaire qui est au niveau de l'oreille interne, mm-hmm. La partie qui nous permet là, de développer et de conserver notre équilibre. OK? Alors, je ne sais pas si ça vous explique bien, là.
Et en plus, bon, est-ce que... l'horizon, la ligne d'horizon que l'on peut quand même utiliser sert de niveau ou vraiment c'est une difficulté qui perdure?
Vous voulez dire pour les déplacements?
Oui.
Bon, c'est sûr que ça aide, là, la ligne d'horizon, OK? Mais sauf que quand il y a un problème au niveau du système vestibulaire, mm-hmm. Ça occasionne des troubles de l'équilibre.
Mais okay? Est-ce que ça veut dire qu'un peu comme un marin... qui arrive sur la terre ferme après 4 ou 5 mois en mer, ça prend quelques jours, puis après ça, on retrouve l'équilibre. Est-ce qu'on s'adapte à ça?
Mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça, vraiment. Non? Mais les personnes qui naissent avec le syndrome d'Usher type 1 vont conserver des problèmes de l'équilibre tout au long de leur vie.
Oh là là!
OK, oui, oui. Okay. Alors, elles vont apprendre à compenser ce problème-là, mais elles vont toujours avoir des problèmes vestibulaires.
Bon, ce qui frappe l'imaginaire, désolé Karine, vous êtes comme pas assez magané. J'aime utiliser le mot magané moi-même étant un magané. Ce qui frappe l'imaginaire, c'est la personne sourde, aveugle. Il y en a, c'est l'exception, on les compte sur le doigt d'une main au Québec ou vraiment il y en a quand même, puis c'est une réalité qui existe.
Mon Dieu. Le syndrome d'Usher, ça demeure quand même une condition génétique rare, même si, pour nous, là, c'est une des principales causes de sourdicité.
Ouais. Mais à l'IRD, il y a combien de sourds aveugles?
Présentement, nous, on dessert environ 500 personnes de tous les âges, de bébés jusqu'à présentement 101 ans.
Sauf que, comme Karine, elle a quand même un résidu visuel résidu auditif.
Oui.
Mais... celui ou celle qui a le jackpot, là?
C'est la minorité.
Oui, ça,
c'est
ça,
la minorité
conviens.
Des personnes qui ont une cécité totale et une surdité profonde. La majorité des personnes qu'on dit sourdes aveugles ont un reste de vision ou un reste d'audition plus ou moins fonctionnel selon chaque individu, selon chaque personne.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont vraiment coupés du monde? Comment entrer en communication avec quelqu'un qui est sourd, aveugle, pas par la loi, là, mais...
Totalement sourd, totalement aveugle.
Ouais.
Vous savez, la communication, la langue des signes, c'est une langue visuelle au départ, OK? Mais il y a moyen de communiquer en langue des signes par le toucher. Alors, les personnes qui... je dois vous dire d'abord qu'il y a les personnes qui naissent sourdes aveugles et il y a les personnes qui deviennent sourdes aveugles. Alors ça, c'est la majorité des personnes qui naissent sourdes aveugles. C'est une minorité... Excusez-moi. La majorité des personnes sourdes aveugles ont une sourdicité acquise.
Ouais.
Elles deviennent sourdes aveugles.
Ouais, c'est ce qu'on avait compris.
Okay? Tandis que les personnes sourdes aveugles de naissance, c'est une autre approche. Là, tout est à montrer à ces personnes-là parce qu'elles ne peuvent pas apprendre par elles-mêmes à cause de leurs limitations sensorielles dès la naissance. Alors, c'est pas comme Karine. T'sais, Karine, il y a plein de choses qu'elle a apprises par elle-même parce qu'elle voit et puis qu'elle a un reste d'audition.
Est-ce qu'une personne totalement sourde aveugle peut mener une vie avec des activités, peut sortir de chez elle, ou vraiment c'est tellement insécurisant, c'est tellement contre-indiqué que non, il faut toujours sortir avec quelqu'un?
Non. Nous, on connaît des personnes totalement sourdes aveugles qui vivent seules en appartement.
Okay.
okay, qui se déplacent avec leur chien ou avec la cam.
Comment okay. je traverse une rue si je vois rien et j'entends rien?
Le chien, probablement.
Il y a, ben, le chien,
ouais, oui, mais le chien, il ne dit pas qu'il faut traverser.
Le chien, c'est son maître qui va lui donner la consigne de traverser la rue. Ce n'est pas le chien qui va décider lui-même.
Voilà.
Lui, il va éviter les obstacles. Okay? Mais il y a des personnes sourdes aveugles, qui, totalement sourdes aveugles, qui quand même apprennent leur trajet. Et puis, quand un trajet leur est familier... en général, en utilisant les bonnes techniques, elles vont être capables de se déplacer seules. Mais si on les place dans un milieu non familier, qu'elles ne connaissent pas, là, c'est sûr qu'elles vont, elles vont devoir être guidées. Elles vont avoir besoin d'aide pour se déplacer.
Ouais. Mais ça, c'est vrai okay. d'une personne aveugle également qui, pour la première fois, va quelque part. Souvent, bon, oui, il y a des trucs, là, mm-hmm, mais c'est autre chose. Mais il y a sûrement un sujet là pour un de ces quatre. Karine, est-ce que vous voulez des enfants?
Oui, j'aimerais beaucoup.
Vous savez que maintenant que le syndrome a apparu, s'est développé en vous, vous allez le transmettre. Est-ce que ça vous met, disons, quelques réticences?
Oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça me met des réticences parce que je ne voudrais pas que mon enfant vive ce que je vis. Moi, présentement, je suis avec... j'ai une conjointe et...
Chanceuse!
Oui.
Donc, on règle le problème. On passe la responsabilité à l'autre.
Exactement.
Okay.
On a eu une belle discussion là-dessus. Et par choix, aussi, pas nécessairement juste de transmettre mon gène, parce que mon enfant ne pourrait juste être porteur, pas nécessairement avoir la maladie. C'est plus au niveau... il y a beaucoup de femmes qui accouchent, qui ont le syndrome d'Usher, qui perdent de la vision en accouchant dû au choc. Le peu de vision qui me reste, j'aimerais le garder le plus longtemps possible.
Je me demande pourquoi.
C'est un pas si du bien. Ouais. Et c'est ça, c'est par choix. Comme j'ai une conjointe, je me trouve chanceuse.
Est-ce qu'il y a eu une période dans votre vie où... l'homosexualité était un poids et même ça faisait pas votre affaire?
Je te dirais, plus à l'adolescence, je me suis vraiment cherchée. Je me comprenais pas. Là, en plus, mais il faut dire qu'à l'adolescence, j'avais juste la perte auditive. Mm-hmm. Je me rendais pas de...
Ben oui, ça fait juste 3 ans.
Vision. Oui, c'est ça. Mais en vieillissant, je pense que ça va vraiment avec la personnalité... qu'on est. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je m'assume complètement. J'ai aucun problème de parler de mes déficiences aussi. Donc, les gens qui m'approchent, c'est pratiquement comme si j'avais rien.
Ouais.
C'est comme une personne normale. Je suis à l'aise avec ce que je suis. Donc, je dirais non, j'ai pas eu de problème par rapport au niveau de l'homosexualité.
Mais d'autant plus que maintenant que vous savez ce que vous savez, vous n'avez pas besoin de demander à une mère porteuse. Vous avez un utérus... accessible.
Exactement.
Donc les frustrations de l'adolescence, aujourd'hui, on les voit comme « wow, c'est une bien bonne chose, finalement ».
Oui, exactement.
Ouais. On va les avoir quand, ces enfants-là? Est-ce qu'on a discuté?
Nécessairement tout de suite, parce que je suis aux études. Ma conjointe aussi est en train de finir ses études. Probablement après. C'est d'ici 2-3 ans, mm-hmm. ça commence à... Oui.
Est-ce que, dans le couple, il y a quand même une voiture?
Pas présentement.
OK.
Pas présentement. Ça va venir. Ma conjointe désire acquérir une voiture, oui.
Est-ce que... Disons, qu'est-ce que vous devez demander comme aide extérieure et est-ce que c'est facile pour Karine Marchand de demander de l'aide?
En général, c'est assez facile pour Karine Marchand de demander de l'aide. Je suis assez à l'aise. Le plus souvent, ça va être le soir.
Ouais.
Parce que moi, le soir, à cause de la rétine pigmentaire, je deviens complètement aveugle. Tout ce que je vois, c'est les sources de lumière. Je ne vois absolument rien d'autre. Si je suis dans mon quartier, je me débrouille assez bien. Mm-hmm. Et à Montréal, on a la chance d'avoir quand même des rues assez bien éclairées à certains endroits. Donc, on peut décider de prendre une rue plus éclairée au lieu d'une autre. Fait que quand je suis seule, ça va bien. Si j'ai quelqu'un avec moi... c'est sûr que je vais profiter de la personne pour être un peu plus à l'aise, moins sur mes gardes. Je vais lui prendre le bras, puis on
Gilles,
va marcher.
Gilles, quels sont les services qui sont offerts à l'IRD pour justement faire en sorte que le quotidien soit le plus facile possible?
OK. Nous, on est un programme conjoint. Dans notre équipe, il y a des intervenants et intervenantes de l'Institut Nazareth et Louis Braille et aussi de l'Institut Raymond Devoir. Alors, c'est comme un programme conjoint. Alors, on offre tous les services en lien avec la déficience visuelle et tous les services en lien avec la déficience auditive. Alors, audiologiste, optométriste, spécialiste en orientation mobilité, orthophoniste, travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs et éducatrices spécialisés. Alors, vraiment, on a tout l'ensemble des services là, pour travailler au niveau de l'autonomie des personnes, équiper les personnes avec des systèmes d'amplification quand c'est possible.
Est-ce que ça demande une spécialité ou une spécialisation particulière? Parce que l'intervenant qui va aider une personne handicapé visuel va connaître les trucs et va souvent utiliser l'oreille et le toucher. Là, il faut que cette personne-là travaille différemment. Donc, est-ce qu'il y a des intervenants spécialisés en surdicécité ou c'est vraiment... on va avec INLB non. pour une chose puis l'IRD pour une autre chose?
Non. Ben, c'est justement... pourquoi on est un programme conjoint? C'est qu'on a les deux disciplines en même temps. Alors, on travaille en interdisciplinarité. Je vais vous donner un exemple. L'audiologiste peut travailler conjointement avec le spécialiste en orientation mobilité, par exemple, pour la localisation auditive dans les déplacements. Okay? L'optométriste peut travailler avec, avec l'audiologiste aussi. Alors, on est en train de développer une expertise qui tient compte des deux déficiences en même temps.
Ouais.
OK? Ce n'est pas des services là, où on traite les gens, où on considère les déficiences de façon isolée l'une de l'autre. Non, non. C'est vraiment une intervention qui tient compte à la fois de la présence des deux déficiences chez une même personne.
Est-ce que cette réalité-là, est-ce qu'on sait si ça va en augmentant? Est-ce qu'il y a plus de diagnostic du syndrome de Usher ou c'est assez stable?
C'est plus chez la population vieillissante où on voit une augmentation du nombre de personnes là, avec qui développe une surdicécité.
Ouais.
OK. Mais syndrome d'Usher...
Je suis obligé de vous arrêter, malheureusement, parce qu'on va nous couper, mais merci beaucoup d'être venu. Gilles Lefebvre, qui est conseiller en réadaptation à l'IRD. Karine Marchand, elle, qui vit avec le syndrome d'Usher depuis la naissance, mais qui le sait depuis il y a 3 ans. Merci, Karine. Merci, Gilles.
Merci bien.
Ce que voir autrement dans ce cas-ci, c'est tout à fait... ce qu'on vient de discuter avec Gilles et Karine, et on passe d'une Karine à l'autre. Madame Villeneuve, bonjour.
Bonjour, Luc.
Comment allez-vous?
Très bien.
On se voit demain, mais on voulait aujourd'hui, dans le cadre de Ça vaut le détour, parler d'un projet que vous avez initié et que vous allez bonifier graduellement, à savoir ce blog « Une vie » ou c'est ça, « Une vie à ma mesure ». Tout ça a été initié par... Une expression que vous avez entendue, quelqu'un que vous citez finalement, à savoir quelqu'un qui voulait vivre une vie à sa mesure?
Bien, en fait, le projet de blog, ça fait longtemps que ça mijotait là, chez nous. C'est avec ma chère collaboratrice Nathalie Vrandruskulo, qui a été directrice de l'association avant moi, là, pendant presque 5 ans. Nathalie, qui n'a pas la condition de nanisme, mais quand même vit des limitations fonctionnelles parce qu'elle a la paralysie cérébrale. Alors, toutes les deux, puis elle a un grand talent aussi d'écriture, alors elle m'aide aussi à composer les textes. On voulait créer un espace pour faire réfléchir, essayer de changer les choses autrement que par la défense des droits ou de la communication, mais c'est ça, faire parler de malgré nos obstacles, à titre de personne ayant le nanisme, il y a d'être humain tout court, ben voir par des portraits, c'est ça, illustrer des réussites d'individus.
Ouais.
C'est sûr que la forme qu'on a prise, c'est que moi, je parle au jeu en tant que directrice. Là. C'est sûr que c'est écrit avec moi et Nathalie. Pendant le mois du nanisme, on essaie d'en mettre des billets à chaque semaine. Et après ça, on ira une cadence, un peu, peut-être un par mois. C'est ça, ça se veut des portraits pour peut-être pas sensibiliser les gens, mais montrer aux gens des facettes.
Mais c'est votre perception de qui cette personne-là est. Ce n'est pas un autoportrait, si on veut, où la personne
Exactement.
Se décrit elle-même.
Exactement. C'est aussi l'idée, c'est pour permettre au lecteur de se mettre à ma place. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça que on a priorisé cette forme-là, pour que chaque lecteur qui soit... Ben, parce que c'est surtout voué pas juste à nous, personnes à petite taille et les familles, mais au public en général.
Ouais.
C'est pour que madame, monsieur, tout le monde puisse s'identifier, puisse te dire, ayant envie de rencontrer ces personnes-là, puis qu'ils disent, finalement, qu'est-ce qu'ils vivent? C'est semblable à ce que nous vivons.
Mm-hmm. La question s'impose, pourquoi Jonathan Poulin?
Jonathan fait partie parmi tant plusieurs chez nous qui se démarquent. Jonathan, vraiment, c'est une personnalité assez forte. Comme c'est écrit un peu dans le blog, mm-hmm. Il y a un anis quand même assez marqué, dans le sens qu'il y a un anis diastrophique qui est beaucoup plus petit que moi. Il se déplace en fauteuil roulant, mais il y a vraiment une personnalité à tout casser. Alors, c'était à peu près ça qu'on voulait faire ressortir. Malgré tout ça, Jonathan, vit une vie active, vit avec sa conjointe de grande taille, a une belle pouponne de 3 ans et demi qui le dépasse déjà.
Mm-hmm.
Alors, c'était pour montrer que, regardez, rien n'était possible.
Jonathan, tout en vous saluant, lorsque vous lisez le portrait qu'a fait Karine de vous, est-ce que vous trouvez que ça vous décrit assez bien? Disons que c'est peut-être un peu trop élogieux, on a oublié quelques défauts ou on est content que les défauts soient cachés?
Non, je trouve que c'est une belle marque qu'on m'a apportée. C'est un bel hommage en même temps. J'ai été très touché justement par le document, le texte qu'on a apporté. Puis ça m'écrit quand même très bien. Je suis quelqu'un de déjà très fonceur là-dessus. Les petits défauts, c'est comme monsieur, madame, tout le monde en même temps. C'est sûr que souvent, peut-être en étant plus petit, on veut peut-être parler plus fort.
Ouais.
Un peu comme c'était Dominique Michel. Mais en même temps, je pense que ça résume quand même bien mon cheminement que je parcours à travers les journées. Là.
Bon, je constate que Karine a été impressionnée par vos voyages et vos compétitions de boccia, mais la boccia, là, c'est-tu un vrai sport, ça, là?
vous dire, oui, tout à fait. Je pourrais vous demander, mettons, les échecs, est-ce que c'est un sport, la pétanque, c'est un sport, c'est du sport. Ça reste quand même, c'est un degré de concentration. Il ne faut pas oublier que le boccia, en partant, ça travaille le corps, physiquement, puis ça travaille beaucoup la précision, la coordination. Donc, on ne veut pas, il y a différents types d'handicap pour pratiquer le boccia. Justement, exemple, paralysie cérébrale, il y a plein de niveaux d'handicap, donc il faut qu'il se concentre à ne pas avoir de spasme au moment de lancer. Même chose, exemple, dans mon cas, comme personne de petite taille, l'appréhension de la balle. Moi, j'ai une malformation par point de vue motrice, mes mains ne ferment pas. Donc, quand je tiens ma balle, et mes membres courent aussi, et mes bras qui peuvent pas aller au-dessus de ma tête. Donc, c'est vraiment un ajustement. Point de vue physique, c'est un effort physique à attribuer justement pour lancer, exemple, une balle bien positionnée parce que j'ai pas des grands bras non mm-hmm. plus. Donc, on n'a pas le choix de s'ajuster avec et de faire un en même temps le corps et l'esprit.
C'est la première fois que quelqu'un est capable de me vendre que la boccia mérite vraiment un effort musculaire et une pratique pour arriver à la maîtrise. Alors, vous êtes un bon porte-parole, Jonathan. Est-ce que vous pratiquez ce sport-là comme loisir du dimanche ou vous voulez continuer à être compétitif? Et on peut être compétitif jusqu'à quel âge?
Il n'y a pas vraiment d'âge. Les meilleurs au monde sont souvent dans 40 ans, 40, 50, les meilleurs au monde actuellement qui sont à ce niveau-là. Mais actuellement, moi, c'est plus récréatif. J'avais okay. pris un petit break avec ma petite fille. Partir, voyager partout dans le monde, c'était plus difficile maintenant, mais là, ma fille est rendue plus vieille. Donc, moi, mon but prochain, c'est de réenclencher ma roue puis de refaire les Jeux paralympiques en 2020, quelque chose comme ça.
J'essaie de penser, ils sont où en 2020?
Je me souviens plus exactement.
Au Qatar, c'est peut-être au Qatar, la Coupe du Monde en 2022, mais je ne sais pas, en 2020. En tout cas, j'espère un endroit exotique pour vous. que ce ne soit pas New York ou Boston. Là.
Non, c'est sûr, c'est dans un autre pays.
Parlons OK, Kamal me dit à Tokyo. Ouais, c'est quand même assez pas mal exotique, ça, là.
Ben, ça a bien de l'allure.
Oui, oui, oui. J'ai envie
là,
de...
Pardon? Encore là, exemple, il va falloir que je me qualifie.
Oui, j'espère. Ouais. J'ai envie de vous prendre, tiens, les deux, avec la réalité, puisque, bon, Karine, vous commencez en disant « Je ne suis pas que la directrice de la QPPT, je suis aussi tac, 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 tac. » Bon, vous décrivez là-dedans et vous prenez le temps ensuite de décrire des gens qui que vous trouvez dignes d'être mentionnés. Les deux, vous avez un amoureux, une amoureuse de grande taille. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que... C'est vrai qu'on demande ça, hein? Supposons que tu es en couple. Moi, on va me demander, est-ce que ta femme voit? Les gens sont curieux. Alors, permettez-moi de l'être avec vous, puisque je me dis, si les gens me posent la question, c'est parce qu'il y en a qui sont intéressés, donc je vous renvoie la question. C'est-tu plus difficile? Ou ben, c'est-tu pas important?
Ben, je dirais, ben, d'abord... en tout cas, moi, j'ai pas de problème. Je suis autant... qu'il soit de petite taille ou de grande taille, ça n'a jamais été une question pour moi. Par contre, techniquement, comme il y a plus d'hommes de grande taille que d'hommes de petite taille, je me dis qu'il y a peut-être plus de chances que je rencontre quelqu'un de grande taille qui m'intéresse et qui s'intéresse à moi. Bon.
Oui, c'est la loi du...
Oui, mais c'est sûr que ça l'étonne les gens. Bon, moi, je fais 4 pieds, mon chum me fait 6 pieds, toi, Jonathan, je ne sais pas...
Ma blonde, elle a fait 5 et 5.
OK.
Mais ça dépend. Permettez-moi un exemple. Souvent, gars-fille, face à un gars, l'attirance physique, souvent, est moins importante pour une femme que pour un homme.
Mm-hmm.
Moi, dans mon cheminement de vie face aux femmes, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Je me souviens même pas avoir été, mettons... Même que ce soit sortir des bars, cruiser avant que je rencontre ma conjointe actuellement, j'ai jamais eu de blocage là-dessus.
Voyons donc, ça a toujours, vous avez toujours été sur le marché, mais jamais trop longtemps.
Non, j'ai jamais eu de problème là-dessus.
OK, on va s'appeler.
Oui.
Aucun problème, aucun problème.
Karine, parlez-moi des autres types de personnalités que vous voulez inclure dans ce blog-là.
Bien, c'est ça, je veux toucher toutes sortes de facettes. Un des derniers blogs que j'ai parlé, justement, il est un petit peu... L'avant-dernier est un petit peu plus personnel. J'ai parlé aussi de ma copine, Annie, qui m'a beaucoup aidée à s'affirmer, ma personne aussi, affirmer sa beauté, sa féminité. Je veux toucher tous les aspects, que ce soit la persévérance, les gens qui sont plus résilients,
ouais.
Comme les gens qui ont fait du chemin au niveau exceptionnellement au
Est-ce
travail.
Est-ce qu'on peut vous suggérer
oui.
des gens?
Bien sûr, nous, on est ouverts.
Que vous ne connaissez pas, mais qu'on se dit justement, on est en région, puis on dit, cette personne-là.
Oui,
là.
Nous, ben c'est ça. Nous, on a fait un appel à tous dernièrement auprès de nos membres, mais... Et plus tard, on a même l'idée d'interviewer, j'ai envie de parler de d'autres personnes, que ce soit des frères et des sœurs d'enfants de petite taille, mm-hmm. des amis, des collègues, des gens qui ne sont pas directement liés à la condition, mais qui sont touchés par ça, ou même des purs inconnus pour voir qu'est-ce qu'ils voient là-dedans. Pour nous, c'est un laboratoire. On veut explorer ce truc-là, puis on est ouvert à toutes les propositions.
Oui. OK. On vous retrouve demain?
Oui.
Comme co-animatrice, j'essaie de me souvenir de ce dont il sera question. Entre autres, on va s'intéresser, on va poursuivre là, les domiciles.
Oui.
La semaine dernière, on a parlé surtout des édifices publics de l'extérieur. Là, on va vraiment s'intéresser aux domiciles plus privés. On va également parler de scolaire.
Oui, ben un de nos services depuis très longtemps, la sensibilisation scolaire, avec ma collègue Nathalie Labelle.
Oui. Puis on verra également, là, il y a d'autres lignes à l'eau qui ont été placées. Entre autres, on est curieux de connaître et découvrir la coalition large pour l'emploi des personnes handicapées. On entend parler depuis quelques semaines, particulièrement avec cette pétition-là, mais on ne sait pas trop de quoi il en est, de quoi il en retourne. Donc on verra bien. Jonathan, j'essaie de me souvenir, vous faites quoi pour mettre du pain sur la table?
Moi, je travaille...
Je parle pas d'auteur, là.
Non, c'est correct. Moi, je travaille ici dans un centre d'appel Nantia pour Bell Canada. Je travaille ici au domaine de la fibre optique, fibre télé. dans un centre d'appel.
OK. J'ai eu mes démêlés avec Bell, j'avoue, mais il y en a d'autres qui ont eu des démêlés avec Vidéotron, alors il y en a qui disent 4,30 sous pour 1$. On espère que votre passage et votre réalité avec Bell sera plus facile que la mienne, et je vous invite à ne pas répondre à cette question qui n'en est pas une. Jonathan Poulin, merci beaucoup.
Peut-être préciser, je m'excuse Luc, que Jonathan, éventuellement, tu m'en as parlé, on voudrait peut-être faire des conférences, si jamais des gens veulent le solliciter pour des conférences dans les écoles, tout ça, sur la motivation, la différence. Je sais que Jonathan, il est ouvert là-dessus.
Moi, je vais me lancer, si je peux me permettre. Je vais faire un lien Facebook direct avec mon image en tant que conférencier, motivateur justement pour démontrer différents niveaux d'handicap. Ce que je veux dire par là, c'est une conférence plus pour les adultes, plus pour les enfants, parce que c'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes questions. Ouais. Et en même temps, moi, je veux démontrer aux gens que même si c'est une différence, que ce soit physique, grandeur, peu importe, dans la vie, si tu sais que c'est un but, si tu veux y arriver, ben t'es capable d'y arriver. Puis il n'y en a pas vraiment de chance, tu la crées, ta chance. Mm-hmm. Puis moi, c'est ça, je veux démontrer aux gens que peu importe ce qui arrive dans la vie, surmonte. Il y a toujours une bonne porte à ouvrir quelque part. Il faut juste savoir au moment d'ouvrir. Moi, c'est ça que je veux démontrer aux gens, que peu importe la différence, ben, écoutez, foncez dans la vie. Ben, arrête de niaiser.
Quand ça sera en place, tenez-nous au courant, Jonathan.
Ben, ça va me faire plaisir. Je vais vous envoyer un lien là-dessus direct.
On peut se relier tout ça. Karine, on se retrouve demain.
Oui.
Jonathan, bonne continuité. On écoute Karine Ouellette et ensuite on parle à notre kiné.
Dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose.
Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres, le sais-tu pas? Pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ourse, en train de boire à la source, j'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-goutte.
Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, c'est quoi? Tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres, le sais-tu pas? Donne-moi ta rose.
Vous avez reconnu Karine Ouellette avec la pièce-titre de son premier album qui a cartonné, hein, Fox, sur Canal M et sur canalm.org. Vous dire pendant qu'on attend Jessica, et on espère que ça va bien se passer pour elle, elle qui a un cours et qui ensuite se précipite de l'université au studio, que la semaine prochaine, du côté du Palais du Congrès, il y a ce sommet international sur le tourisme que Kéroul a mis de l'avant. Il y a toujours comme ça, je pense que c'est aux 2 ans, un lieu dans le monde où on met en commun les initiatives, les réalités, les incapacités et peut-être également les idées qui ont motivé tant les agents de voyage, les pourvoiries locales que les décideurs. Et cette année, ça se passe à Montréal. Ça démarre dimanche et ça se termine mercredi. On espère vraiment, vraiment, on est en lien avec Kéroul et on espère, pour ce qui est du prochain Ça vaut le détour, vous offrir donc une heure de tourisme et de choses adaptées. On a parlé à la Seigneurie du Triton la semaine dernière. Il y en a d'autres petits coins de pays comme ça, bien intéressants, mais on n'a pas nécessairement envie de faire une heure carnet d'adresses, mais plutôt de voir qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui nous permet d'espérer que le propriétaire d'un gîte, le propriétaire d'un parc d'amusement, le propriétaire voit la clientèle comme une clientèle qui mérite d'être accueillie, qui mérite d'être tentée dans le sens actif. Et on verra bien si on est capable, parce qu'on sait que les invités en question que l'on a en tête sont déjà pas mal occupés avec ce sommet-là. On espère pouvoir les avoir jeudi prochain. Également, je voulais vous rappeler... je vais aller chercher les infos exactes pour pas vous induire en erreur, mais cette fin de semaine, il y a cette initiative, l'association... dont j'ai oublié, mais on leur a parlé il y a un mois, un gros, gros, gros rassemblement de tous les services pour la personne handicapée, du moins tous ceux qui se sont inscrits. Alors, tiens, Kamal, est-ce qu'on a une pièce? Bon, il me dit que oui, il ne m'a rien dit. Alors, je serais aussi surpris que vous à savoir c'est qui, c'est quoi, puis je vais aller chercher les infos, là. Je pense que ça se passe, je suis sûr que ça se passe dimanche, mais je vous dis où et de que c'est.
Sur un cheval blanc, je t'emmènerai. Défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? Sur un cheval blanc, je t'emmènerai. Défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux. Pourtant moi je sais que ce n'est qu'un rêve. Pourquoi faut-il que je ne sois qu'un rêve? Mais l'hymne à l'amour, je l'entends déjà. Moi j'entends déjà son alléluia, alléluia.
Claude Léveillé sur Canal M et sur canalm.org. Donc c'est l'association québécoise des personnes avec des besoins spéciaux. Ça se passe, cette exposition toute habileté, dimanche au stade Uniprix. C'est entre 10 et 17 heures. Et il y a plein de gens là, qui seront là pour peut-être répondre à vos questions. Vous voulez savoir parce que vous êtes un proche aidant ou parce que vous êtes peut-être nouvellement initié au milieu de la limitation fonctionnelle. Est-ce qu'il y a des loisirs? Est-ce qu'il y a des crayons spéciaux? Est-ce qu'il y a... Alors, vous aurez réponse. Jessica Laniel, quelle horreur, je pourrais pas toucher à vos beaux cheveux.
Ah ben non, c'est ça. j'étais prise dans le trafic sur René Lévesque à cause de la manifestation pour les policiers, pompiers, tout ça. Donc, il n'y avait pas moyen que je me déplace à être à temps pour l'entrevue, bon. Malheureusement.
On va parler aujourd'hui d'entraînement pour les personnes ayant un accident vasculo-cérébral. Peut-être juste nous rappeler... Oui, peut-être juste nous rappeler...
Oui, bien rapidement, ce que c'est un AVC, en fait, c'est ça. C'est un accident vasculaire cérébral. Et ce que ça comprend, en fait, c'est une interruption de la circulation sanguine au niveau cérébral. Donc, à ce moment-là, il y a des cellules qui sont pas nourries par le sang, qui vont mourir dans une région du cerveau. Et ça, il y a deux types. Il y a les ischémiques ou les hémorragiques. Donc, c'est soit un caillot qui va venir se loger ou qui va bloquer littéralement le vaisseau, empêchant le sang de passer, ou un vaisseau qui va se rompre. Mm-hmm. Et ça, ce que ça va causer, dans le fond, c'est qu'il va y avoir plusieurs symptômes qui vont faire que la personne, du côté opposé à l'obstruction. Dans le fond, si on est atteint au niveau gauche du cerveau, les atteintes physiques vont être plus du côté droit, mm-hmm, et vice-versa de l'autre côté. Et là, ça peut être autant au niveau de difficulté, au niveau de la marche, ça peut être de la paralysie, parésie des membres, ça peut être difficulté au niveau de la concentration, de la motricité, on a de la misère à contrôler nos membres. Donc, il y a plusieurs symptômes qui vont suivre de ça. Et nous, en tant qu'kinésiologues, qu'est-ce qu'on peut faire? Normalement, quand l'accident arrive, c'est sûr que nous, il faut attendre d'avoir le OK du médecin pour dire qu'il n'y a pas de problème de faire de l'activité physique. Mais par la suite, le plus tôt possible, il faut vraiment commencer à faire de l'activité. Puis ils disent qu'il y a une fenêtre. Dans le fond, c'est comme une période où on est plus propice à récupérer nos habiletés.
Donc, et, si je comprends bien, plus on le fait rapidement, mieux on est capable de récupérer certaines habiletés?
Oui. Bien, pour ceux qui... Bien, pour les habiletés qui est possible de récupérer, mm-hmm, ça serait vraiment dans l'espace des 6 mois que ce serait possible de les récupérer le plus possible. Ça serait le plus optimal, en fait, pour la récupération, dans les 6 mois suivant l'accident. Mais c'est sûr que même après, il y a possibilité d'avoir des acquis et des améliorations quand même physiques.
Jessica, normalement, on associe l'AVC à des personnes avancées en âge, mais c'est pas nécessairement toujours le cas.
Non, pas du tout. En fait, il y a plusieurs facteurs de risque, mais toute personne qui a des risques de maladies cardiovasculaires, que ce soit la sédentarité, que ce soit le tabagisme, alcool, hypercholestérolémie, diabète, c'est plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'on est apte, on est plus à risque d'avoir une maladie cardiovasculaire et plus à risque de faire des AVC.
OK. Les objectifs, les premières choses que, si on veut prioriser, que l'on veut obtenir lorsqu'on reprend l'entraînement?
En fait, nous, c'est sûr que le but, c'est que la personne soit le plus autonome possible. Mm-hmm. Donc, on va favoriser au niveau de la marche, au niveau... par exemple, si on prend la marche, la personne, nous, on va tout évaluer son patron moteur. Donc, comment il marche? Est-ce qu'il fait bien son transfert de gauche à droite quand il marche? Est-ce qu'il y a une flexion, extension au niveau de la hanche, du genou, des chevilles? Puis si tout ça, on voit des difficultés, on va travailler à ce niveau-là. Donc, des fois, on va voir que juste en travaillant au niveau de l'équilibre, qui est un autre aspect souvent qui perdent la capacité avec l'AVC. Donc, on va travailler l'équilibre pour que, durant la marche, il y a toujours une phase où on est seulement sur un pied. Bien, pour eux, que ça soit plus facile, donc peut-être même éventuellement d'enlever la canne, si on est avec une canne ou une marchette, mm-hmm, ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour la marche. On peut travailler aussi côté coordination. Donc, on peut travailler... au début, on va utiliser juste les membres inférieurs ou juste les membres supérieurs, les bras, les jambes. Puis après ça, on va pouvoir mixer le bras droit avec la jambe gauche ou des choses comme ça, justement pour qu'il soit plus rapide côté réaction, plus autonome dans les activités de la vie quotidienne aussi.
Est-ce que c'est possible, lorsqu'on commence l'entraînement, suite au diagnostic, puis aux résonances magnétiques, puis aux échographies, ou en tout cas tout ce qu'on peut voir comme image, de se dire, OK, on devrait être capable d'aller chercher telle mobilité ou telle coordination où on ne le sait pas?
On ne le sait pas entièrement. C'est sûr que le cerveau, c'est tellement quelque chose de complexe, de savoir à quel point on est capable d'aller chercher chaque capacité qu'on a perdue, peut-être pas. Mais ça a été vraiment prouvé qu'avec l'activité physique, on est capable de récupérer certains aspects. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que si on a l'accident, qu'on arrête complètement les activités pendant un certain moment, comme monsieur, madame, tout le monde, on devient plus sédentaire, ouais, et on perd beaucoup d'acquis. Donc, juste le fait de se remettre actif, dans le fond, on va on va gagner beaucoup, que ce soit c'est ça, la marche, les capacités cardiovasculaires qui vont nous aider à justement pas avoir un autre AVC par la suite. Ça peut être des bons facteurs.
En tout cas, faut être patient parce que pour en croiser à Viomax, il y en a que ça fait 2 ans et demi, puis c'est ça, faut être patient. Les policiers, les pompiers voulaient nous déranger, ils ont réussi.
Oui.
Jessica, on se parle le mois prochain.
Oui, c'est parfait. Un gros merci.
Merci également à Kamal
Bye.
Salifou.
Bonne journée.
Lynn Gargano à la recherche. Accès libre, si vous en avez le goût.